CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Rien, c'est un truc pour aérer l'écran. Comme ça, les lignes ne sont pas trop rapprochées.
Ah, il s'agissait d'y penser.
Au moment où on se parle, vous êtes tous assis devant la télévision à avoir du plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Pensez-vous que les Chinois sont en train de regarder le bye-bye? Non, monsieur!
Les enfants auront besoin d'une connaissance des ordinateurs dans le futur.
On le sait, la téléphonie cellulaire se développe à un rythme très rapide. De nouveaux appareils. Le premier permet à son utilisateur de faire ses appels strictement avec la voix. Et quant au deuxième, il n'est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes.
Read, data et restore.
À vos ordres, chef.
Bon, effectivement, bienvenue à Devant vos écrans avec Éric Laverdure. Il est présentement midi 1. Presque midi 2, oui, si la trotteuse avance aussi vite que ça. Alors, votre émission de l'heure du lunch à CFAQ sur différentes questions. Par exemple, qu'est-ce qu'on écoute cette semaine? Qu'est-ce qu'on joue cette semaine? Bref, tout ce qui se passe devant vos écrans. Éric Laverdure au micro en espérant que vous allez très bien en ce beau mercredi 28 octobre 2020, quelques jours avant les élections américaines. Hein, on va en parler, c'est sûr, à 100%. Sinon, ben, dans notre menu aujourd'hui, devant vos écrans, on va parler des, en fait, qui modère les modérateurs. C'est un peu un petit titre hein, que j'avais envie de faire un petit clin d'œil à Watchmen. Bref, ces modérateurs de Facebook qui sonnent l'alerte, en fait, sur leurs conditions de travail. On va en parler grandement. On parlait de politique. Alors, pas de publicité politique après le 3 novembre prochain aux États-Unis pour Google et d'autres entreprises de nouveaux médias. Sinon, on va parler également de la fin de Quibi, les limites d'une fausse bonne idée. Hein. Est-ce que vous avez entendu parler de Quibi? Est-ce que vous savez c'est quoi Quibi? Parce que c'est un drôle de mot à prononcer. Je pourrais le prononcer plein de fois. Quibi, Quibi, Quibi. Bref, c'est une petite plateforme de streaming faite pour les mobiles. On va en reparler parce que, on en parle, oui, mais c'est déjà terminé. Alors, lancez-vous pas là-dessus. Cyberpunk 2077 encore repoussé. Et oui, on en parlera également. Une série sur Assassin's Creed signée Netflix a été annoncée ça justement hier. Et en fin d'émission, on va parler de Facebook et les jeux à la demande. Alors, vous savez, cette nouvelle technologie ou cette nouvelle mode qui est de ne plus avoir besoin d'une console à la maison, suffit d'avoir une très bonne connexion Internet. Il y a des limites, on va en parler un petit peu plus tard. Alors, c'est ça. Alors, êtes-vous prêts? On embarque devant vos écrans. Et oui, avec cette petite musique thématique. Les modérateurs de Facebook veulent être écoutés. C'est lundi que des modérateurs de Facebook sont sortis. Ces modérateurs-là qu'on retrouve en première ligne face aux messages de haine et des images violentes qui demandent à être mieux traités et écoutés par le géant des réseaux sociaux. Cette sortie fut prévue en fait pour qu'elle soit tout juste avant le début des audiences d'aujourd'hui hein, qui commencent en ce beau mercredi des géants du web devant un comité du Sénat. Alors on le sait, le contenu sur Facebook peut varier. Tantôt on voit des belles photos de petits pitous, de petits minous, tout le monde est content. Mais ça peut déraper très rapidement. On peut aller aussi jusqu'aux images de la tuerie de Christchurch qu'on se rappelle qui avait été partagée telle une traînée de poudre en fait qui avait explosé comme un baril de poudre, oui, pour bien prendre mes expressions, et qui avait été retrouvé partout un peu sur Facebook. On pouvait écouter la vidéo du tireur, qui était assez dégueulasse. Bref, alors, avant, du contenu qui était seulement trouvable sur des sites hein, qu'on surnommait affectueusement la poubelle du web. On peut penser à 4chan, 8chan, tous ces genres de poubelles de l'Internet. Eh bien, maintenant, on peut les retrouver sur une plateforme grand public telle que Facebook. Alors, c'est sûr que cela vient avec l'énorme développement des réseaux sociaux dans les dernières années et qui apporte également leur lot de défis et de nouvelles fonctions des travailleurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est qu'on a trouvé des nouveaux corps de métier. Avant, modérateur de réseaux sociaux, ça n'existait pas comme job. C'est une nouvelle job qui a débuté avec cette grande révolution-là, on pourrait presque le dire, des réseaux sociaux. Alors, c'est ceux qui sont à l'affût de nos signalements sur Facebook. Quand vous signalez une publication, par exemple, de quelqu'un qui écrit que toutes les gens qui ne portent pas des masques sont des mangeux de un ou des mangeux de ci, eh bien, c'est ce type-là de ce type de modérateur-là, en fait, qui regarde ces publications-là, et ben, oui, il y a des algorithmes qui sont entraînés pour faire la partie de la job qui est quand même assez facile. Par exemple, un gros mot, une photo d'une partie génitale, bref. Mais ça peut être aussi, il faut quand même une vérification humaine pour certains cas, quand c'est vraiment pointilleux. Alors, à la tête de cette sortie, pour des meilleures conditions pour les modérateurs, on retrouve Alison Trebax, qui est une ancienne modératrice. Cette dernière, elle a critiqué vertement l'utilisation de la sous-traitance pour ses emplois assez durs sur le moral au lieu de les engager à même l'équipe de Facebook. Alors oui, ces modérateurs-là, ces équipes de modération-là, c'est des entreprises qui sont un peu partout dans le monde, qui sont souvent dans des pays sous-développés ou des pays en développement, et avec des gens qui parlent anglais nécessairement ou d'autres langues, selon la place où ils sont modérateurs. Et au lieu d'être des employés de Facebook directement, ils sont employés d'une compagnie qui sous-traite la modération de tout ça. Ce qui permet en même temps à Facebook de se laver les mains complètement de leur rôle de modération et de dire ben, c'est de la faute aux sous-traitants. On retrouve ça ici au Québec, hein, on le sait, des centres d'appel par exemple, plusieurs centres d'appel, dont ici de la région, tout près même de l'université, tu sais, vous savez, l'autre bord du pont, qui sont sous-traitants pour Bell Canada et pour d'autres organisations comme ça. Alors ça existe souvent, la sous-traitance dans le milieu informatique. Cependant, ben c'est ça que Mme Trebax en fait critiquait lors de la conférence organisée par le Real Facebook Oversight Board, le véritable conseil de surveillance de Facebook, qui est un collectif d'associations qui accuse la plateforme de ne pas lutter suffisamment contre la désinformation, les messages de haine et les campagnes de manipulation qui ont des répercussions dans la vie réelle et dans le processus démocratique. Ça, ben, on l'a vu dans la dernière année ou même dans les 4 dernières années. Puis même, sans tomber dans le... sans mettre nos chapeaux d'aluminium ce matin, ce midi, je veux dire que la désinformation, c'est pas nouveau. Hein? Vous savez, on a même entendu parler très récemment d'une campagne de désinformation créée par les militaires des forces canadiennes en Nouvelle-Écosse, si je me rappelle bien, ou à Terre-Neuve-Labrador. Bref, qui avait des loups, hein, qui étaient sur le terrain des gens. Faites attention, il y a des loups. Ils ont même envoyé une lettre officielle qui disait « Faites attention, il y a des loups. » Il y avait des sons de loups. Mais tout ça s'est avéré être une campagne de désinformation à la maison par l'armée canadienne pour tester ses capacités à faire de la désinformation. Alors n'oubliez pas que même les gens qu'on pourrait croire qui sont nos plus grands alliés, les militaires, il faut quand même faire attention. Bref, c'est dans le monde qu'on est rendu aujourd'hui. C'est dans un monde qui doute de plus en plus, du monde qui ont les capacités à douter. Alors continuez à douter, mais n'oubliez pas non plus qu'il faut suivre également la logique dans ce bas monde. Alors comme je le disais, hein, Facebook n'emploie pas directement la majorité de ses milliers de modérateurs de contenu dans le monde. Le groupe californien fait appel à des sous-traitants aux États-Unis dans le monde pour ses tâches devenues cruciales alors qu'il est régulièrement accusé de servir de plateforme à des groupes violents et individus racistes notamment. Alors c'est vrai que Facebook dans les dernières années a été critiqué vertement pour, par exemple, d'avoir laissé des messages qui pouvaient porter à croire qu'il ne fallait pas aller voter pour Hillary Clinton ou même des messages violents devenant d'organisations. On pourrait penser des Proud Boys, on pourrait parler des Poor Centers, mais on pourrait parler aussi de d'autres organisations à gauche également qui peuvent être affectées par ces manœuvres de désinformation-là. Alors, selon des sources de ce groupe-là, du Real Facebook Oversight Board, ce serait près de 30 000 modérateurs qui travaillent, telle une armée, pour nettoyer le plus grand réseau social au monde. Et comme je le disais, ça rentre aussi en même temps que de cette audience-là qui se déroule présentement aujourd'hui de M. Mark Zuckerberg, de M. Jack Dorsey et de M. Sundar Pichai, le patron de Google. Jack Dorsey, c'est le patron de Twitter, qui seront auditionnés aujourd'hui sur la section 230 du Communication Decency Act, qui est une loi relative à la liberté d'expression sur Internet et à la responsabilité des grandes plateformes. Cette section enlève la responsabilité, par exemple, d'un fournisseur de services Internet d'être responsable du contenu publié par cette compagnie-là. Ce qui veut dire que Vidéotron, par exemple, ici, ne pourrait pas être accusé de vous avoir laissé publier des extraits de Mein Kampf, par exemple. Ça, c'est une chose aux États-Unis qui est dans la loi, mais avec la grosseur, en fait, avec le poids que prennent les réseaux sociaux tels que Facebook, tels que Twitter, au niveau de la liberté d'expression, au niveau du contenu. Bref, on veut revoir ce règlement-là pour se demander justement si ce serait pas mieux de changer cette clause-là qui pourrait permettre peut-être au Sénat américain au Congrès américain, bref, au gouvernement américain d'avoir plus de pouvoir sur ce que Facebook et Twitter font avec le contenu. Parce qu'on peut se rappeler, par exemple, dans les dernières semaines, il y a eu un article assez bizarre du New York Post qui avait été partagé sur les réseaux sociaux et qui faisait mention du fameux Hunter Biden Gate. Alors, on avait retrouvé un homme réparateur d'ordinateur avait retrouvé un laptop appartenant à Hunter Biden, le fils de Joe Biden, et il avait vendu les informations sur ce laptop-là à Rudy Giuliani, un des avocats de M. Trump. Alors là, ça avait été publié, et là, Twitter avait décidé de bannir la nouvelle, étant donné que, selon eux, ce n'était pas une nouvelle légitime. Et là, il y avait une grande crise qui s'est produite aux États-Unis. Là, l'éditeur en chef du New York Post était très critique aux propos de Twitter, et même se sont fait suspendre leur compte pendant quelques jours. Bref, il y a eu une grosse saga sur Twitter. Il s'en passe des choses sur Internet. Alors, c'est ça qu'on veut régler aujourd'hui. Mais sinon, en espérant que oui, effectivement, il va y avoir plus de pression pour Facebook qui devrait régler leurs problèmes de modérateurs. Ce n'est pas normal qu'on laisse des gens regarder les choses les plus ignobles de notre Internet sans leur donner un peu d'aide psychologique et même d'aide financière. Alors, en espérant que les gens pensent à ça pour de vrai de plus en plus, il y a des travailleurs de l'ombre dans vos choses de tous les jours. Il faut les soutenir quand on a le temps. Oui, alors de retour, vous êtes toujours à devant vos écrans avec Éric Laverdure, en espérant que vous allez toujours bien dans ce monde fastidieux qui est le monde de l'informatique. Alors après avoir parlé de Facebook, on va parler d'un autre géant de l'informatique. On va parler de Google, en fait, qui a décidé qu'après la clôture des bureaux de vote aux États-Unis, Google empêchera quiconque de diffuser des publicités politiques sur sa plateforme, selon ce qui est annoncé hier. Bon, alors j'imagine que c'est pour la plateforme du côté américain. Je pense pas que nous, les Canadiens, on va être affectés. Mais bref, c'est le groupe Axios qui a été des premiers à annoncer la nouvelle dimanche dernier, affirmant que Google avait envoyé un email aux annonceurs les informant d'une interdiction de toute publicité liée aux élections américaines dans le cadre de sa politique sur ce qu'ils appellent les événements sensibles. Google l'a confirmé dans un article de blog mardi. Alors, je cite ici Amanda Story, oui, la directrice du Trust and Safety à Google, a dit que compte tenu de la possibilité que les résultats des élections soient retardés cette année, et pour limiter le risque que les publicités augmentent la confusion après les élections, nous avons pris la décision d'appliquer notre politique relative aux événements sensibles dès la fermeture des bureaux de vote le 3 novembre prochain, qui sera de temporairement suspendre des publicités faisant référence à l'élection 2020, au candidat ou à son résultat. Alors, on veut s'assurer, par exemple, que l'équipe de Trump ou, bref, je dis rapidement l'équipe de Trump, là, mais une des équipes décide de publier sur Google ou un site Internet, genre le gagnant de l'élection 2020, puis que là, dès que tu cliques là-dessus, ben, tu reçois un message que c'est cette personne-là qui a gagné, mais finalement, les votes n'ont pas tous été comptés. Faut pas oublier que cette année, année pandémique, année exceptionnelle dans le processus démocratique américain, on va avoir beaucoup de votes à compter après la journée des élections. Alors, pour les gens, un peu comme moi, de geeks politiques, n'ayez crainte, les résultats de la journée du 3 novembre ne sera pas comme avant, ce qu'on se couchait à 2h du matin et on savait c'était qui le président. Ce ne sera pas ça cette année. On va sûrement le savoir vraiment plus tard qui va être le président des États-Unis après le vote du 3 novembre. Les directives publiques de Google sur les événements sensibles, en fait, stipulent qu'elle n'autorise pas les publicités qui profitent ou exploitent potentiellement d'un événement sensible ayant un impact social, culturel ou politique significatif, comme les urgences civiles, les catastrophes naturelles, les urgences de santé publique, le terrorisme et autres activités, conflits ou actes de violence de masse. Alors, c'est une politique que Google a sûrement pris en compte lors des dernières élections et pour s'assurer, bref, que tout soit propre sur sa plateforme pendant les événements, ce qu'on appelle sensibles. Alors, Google n'est pas la première entreprise de technologie à commencer à restreindre les publicités en réponse aux élections américaines. Facebook a annoncé en septembre qu'il interdirait les nouvelles publicités politiques la semaine précédant les élections, alors cette semaine, pour freiner la propagation potentielle de la désinformation. Sinon, Twitter a interdit aussi la publicité mentionnant des candidats politiques, des élections et des mesures de vote en novembre de l'année dernière, bien qu'ils aient fait quelques exceptions pour des éditeurs de nouvelles et les publicités fondées sur la cause. Alors, par exemple, des groupes syndicaux, des choses comme ça, qui avaient le droit de faire de la publicité quand même sur une cause. Et Gogol fait déjà face à un afflux massif de demandes de publicité politique. Le journal Bloomberg a rapporté la semaine dernière que YouTube, propriété de Gogol, manquait d'espace publicitaire pour les campagnes politiques dans les États, les swing states, alors les États qui ne sont pas décidés pour le moment. Alors, grande chose qui se passe pour la politique aux États-Unis. De notre côté, on s'en va en publicité. On s'en va également écouter Maxime Gervais. Mais avant ça, on va également écouter Laurent Sane avec Accident. Tout ça et encore plus devant vos écrans.
On partira dans une boue bleue. fera ce qu'on voudra.
Mais voyons donc, mon Maxime, comment peux-tu dire que la magie n'existe pas? Ça va-tu, mon petit chum? Regarde autour de toi, regarde dans le ciel. Regarde au coin de la rue les amoureux qui apprennent à se connaître. Écoute les enfants qui rient. Regarde les animaux autour de toi. Des insectes, des fruits qui poussent, des fleurs. Et surtout, regarde à l'intérieur de toi. Tu vas voir que la magie existe.
Et la magie n'existe pas. La magie n'existe pas.
Regarde les animaux.
La magie n'existe pas. La magie n'existe pas.
La magie n'existe pas.
Tu peux rien changer la somme.
Regarde,
il est trop tard pour changer le contrat.
Regarde dans le ciel.
Même le contrat n'existe pas.
Et surtout, regarde à l'intérieur de toi. Tu vas voir que la magie n'existe pas.
Et la magie n'existe pas.
Ça va tout bon, petit chien.
La magie n'existe pas. La magie n'existe pas. La magie n'existe pas.
Toutes les enfants qui vivent
dans ce monde.
Regarde les animaux autour de toi.
La magie n'existe peut-être pas, mais la magie de Mario Bros, elle existe. C'est de là que venait la dernière transition que vous venez tout juste d'entendre. Alors sinon, côté chanson, on a entendu la magie n'existe pas de Maxime Gervais et Accident de Laurensanne. Alors en espérant que vous allez toujours bien devant vos écrans, midi 24, cette journée nouvelle techno qui ne cesse de me surprendre. On a annoncé dernière heure, en fait, il y a à peu près une demi-heure, que la Sûreté du Québec avait subi un vol de données qui toucherait au moins 5400 de ses agents en service ou bien retraités. Bonne chance, la SQ. Alors, assez intéressant de savoir que nos institutions de sécurité ne sont pas sécuritaires face à des gens qui décident de passer par le virtuel. Bref, il manque ici, je pense, au Québec de s'asseoir et de prendre un moment pour, oui, régler la pandémie qui se déroule présentement, mais il faudrait aussi régler la pandémie de l'épidémie, en fait, de différents vols de données que les Québécois ont subis, là, avec tous les vols combinés. Je pense que tous les Québécois ont maintenant leurs informations dans le dark web. C'est fantastique. Merci beaucoup à nos institutions. Alors, on continue avec nos sujets techno de la journée. Hein? Alors, saviez-vous c'était quoi Quibi? Ah, ça me fait rire à chaque fois que je le prononce. Alors, Quibi, c'était un service de streaming assez intéressant. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Alors, Quibi ferme officiellement son service de streaming. Le service de streaming qui était censé attirer un public plus jeune avec un modèle commercial centré sur le téléphone mobile. Il semble que les lumières vont s'éteindre pour Quibi qui a été lancé à la mi-avril 2020 et qui va arrêter ses opérations aux environs de décembre. Alors, en fait, ça, c'est des nouvelles qui sont apparues. C'est le Wall Street Journal qui en parle depuis dimanche. Quibi aurait récemment embauché une entreprise de restructuration qui aurait offert un certain nombre d'options pour le service défaillant. L'une de ces options, c'était de fermer. Ça semble ce que Jeffrey Katzenberg, le fondateur de Quibi, a décidé de faire, étant donné que le service va fermer au mois de décembre. La compagnie de M. Katzenberg et de Mme Meg Whitman avait réussi à lever 1,75 milliard de dollars pour financer ce fameux service-là de streaming. Ce qui rend Quibi unique, pourquoi on en parle tant ou pourquoi on en parle si peu, c'est parce qu'il était centré sur le téléphone mobile, alors on n'était juste disponible que sur Android et sur iOS. Alors, les spectateurs, en fait, et aussi ben, les émissions de Quibi ne durent pas plus que 10 minutes. Alors, la théorie était que les gens en déplacement allaient écouter un petit Quibi hein, entre deux transports en autobus et des choses comme ça. Le service coûtait 4,99$ avec des publicités, 7,99$ par mois sans publicité, a été lancé seulement quelques semaines après la pandémie de coronavirus. Alors, cela signifiait que beaucoup de personnes ben, n'étaient plus en transport en commun, n'étaient plus dans le train, ils étaient pognés à la maison. Alors, il y avait beaucoup plus de temps que 10 minutes pour écouter du contenu sur Quibi. Il y a également aussi l'entêtement de la compagnie à ne pas sortir d'application pour les TV Android ou pour les TV comme Apple TV. Bref, alors, il n'y avait aucun moyen d'écouter Quibi sauf sur son cell. Cependant, c'est intéressant parce que les vidéos sur Quibi, tu pouvais passer d'un format cellulaire, alors quand ton écran est debout, là, je sais pas comment l'expliquer, où tu pouvais le tasser sur le côté et ça devenait du plein écran. Alors, il était écoutable dans les deux domaines. Alors, c'est ça qui était assez particulier de Quibi. Ce qui a vraiment bien marché de ce côté-là, ils ont investi vraiment beaucoup d'argent. Ils sont allés chercher des compagnies de partout aux États-Unis qui faisaient de la télévision, NBC, tout ça, pour leur demander « faites-nous des produits simplement pour Quibi ». Alors, il y a eu différents shows, mais ce qui marchait le mieux, c'était les nouvelles. Hein. Je pense qu'effectivement, dans un format de 10 minutes, ce qui marche le mieux, c'est de savoir ce qui s'est passé dans le monde et non de prendre le temps de s'ingérer dans une histoire qu'on va peut-être oublier à la fin de la journée. Alors, les entrepreneurs admettent qu'il est possible que leur idée de lancer un service de streaming uniquement mobile n'a pas été assez forte ou au bon moment en raison de la pandémie. Alors, le service de Quibi qui va fermer aux alentours du 1er décembre. Alors, comme je le disais, il avait réussi à faire 8500 épisodes de forme courte sur environ 175 émissions. Et comme je le disais, pour les formats, hein, c'est ça. C'est qu'on veut le voir à la verticale dans un format 9-16. Et on pouvait écouter aussi des émissions en format 16-9, alors quand on mettait notre téléphone sur le côté. Bref, c'était intéressant. Le concept était là. Malheureusement, peut-être le contenu n'était pas là. Et aussi, c'est assez particulier de voir une entreprise qui a réussi à ramasser quand même $1 milliard et plus et qui crash aussi facilement que ça, tandis que tu as plein d'autres entreprises qui auraient sûrement voulu une part de ce butin-là pour se stabiliser un peu. Alors, peut-être la fin FIM des entreprises hein, de divertissement va peut-être s'affaiblir un petit peu après le choc de Quibi. Alors, sinon, eh bien, autre... Ben oui, attendez, hein, une autre nouvelle égale une autre transition. Et qu'on aime ça. Alors, un peu de monde cybernétique pour parler de cette autre nouvelle. Alors, c'est le 10 décembre prochain que les joueurs de Cyberpunk 2077 vont enfin pouvoir goûter à leur Saint Graal vidéoludique, si Dieu le veut. Alors, dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux hier, la compagnie, l'éditeur de jeux, en fait, CD Projekt Red, qui sont bien connus pour avoir créé le magnifique jeu Witcher 3, a évoqué des problèmes d'expédition et de tests sur les 9 plateformes sur lesquelles Cyberpunk 2077 sortira, en fait, sera déployé, surtout en mode télétravail. Alors ça, c'est quand même vrai. Le télétravail a le dos large présentement dans l'industrie du jeu vidéo. On peut penser aussi à World of Warcraft, la nouvelle expansion Shadowlands, qui a également été repoussée dû à des raisons de télétravail. Alors sûrement qu'on peut moins fouetter les travailleurs. Alors c'est pour ça que les jeux sortent un peu moins vite. Hein. Alors c'est triste pour l'industrie du jeu vidéo qui ne pourra pas aussi bien utiliser ses employés comme du bétail. Alors, à la mi-octobre, la compagnie avait annoncé que son jeu serait offert simultanément. Hey, j'ai de la misère avec ce mot-là. Bref, il va sortir sur différentes consoles le 19 novembre prochain. Il allait sortir sur PC, Google Stadia, les consoles Xbox One, Xbox X, Xbox Series X. Hey, ça devient beau, ça devient long. Ainsi que les PlayStation 4, PlayStation 4 Pro et PlayStation 5. Le report de cette méga production qui met en vedette l'acteur américain Keanu Reeves a de quoi surprendre les personnes qui l'attendaient de pied ferme, car le studio a fait savoir plus tôt en octobre que le développement de Cyberpunk 2077 était terminé, effaçant la possibilité d'une troisième extension parce que oui, le lancement initial du jeu avait été prévu le 16 avril dernier, mais avait été repoussé au 17 septembre, puis au 19 novembre. Alors ça devient de plus en plus une blague dans le monde du jeu vidéo, quand est-ce que Cyberpunk 2077 va sortir justement. Alors, de notre côté, on va retourner en musique. On s'en va écouter l'Impératrice avec Erreur 404. On va également écouter du bon Young Lean, parce que vous savez, si vous me connaissez personnellement, quand c'est l'automne, on écoute du Young Lean. Mais avant ça, on va écouter un bon classique de la musique techno slash France-Québec. On va l'écouter Numéro avec Tout est parfait, tout ça et encore plus à devant vos écrans.
Échec et mat sous la pluie. silence éclaire le voyage. Et tes illusions tracent le paysage.
2003 shit, this ain't no splitting bill shit. I'ma peel bananas just while listening to R. Kelly's greatest hits. Feels like sits while someone vomits on your mosquito tits. Slitting wrists while dark evil spirits like Slytherin. Slytherin with tricks, I'm sick. Acid drip makes my spitting sick and makes me start hitting chicks. Knitting thick, shitting quick, fitting dick like transmitting shit with an AIDS stick. You're gay as fuck like a fish stick. Tequila shots and salt licks. Getting balls in your face like a free kick. Young me and Stace motherfucking freaky, bitch. Rotten teeth like Gargamel. Cast a spell, you keep on trying to yell. Bet your dead body stinks worse than my swell. Well, lean expels diagrams as if they were made in Excel. Fuck fat host like Adele. Get my dick stuck inside a lamp shell. Get it out with sperm cells and hair gel. Swim in Mexico, Mademoiselle. Point a laugh while he fell. Who's laughing now, now that I'm explosive like Alfred Nobel? Young, lean only attracts an older clientele. Very well.
Oh,
encore triplé musical. On a écouté à l'instant, en fait, c'était Numéro avec la chanson Tout est parfait. On a également écouté Erreur 404 de l'Impératrice et en terminant, une petite gracieuseté de ma jeunesse, Young Lean avec Jensen Strip 2002. Bref, Young Lean qui continue, en fait, qui est un des, on pourrait dire, un des premiers rappeurs autoproduits qui est parti de la. De la Suède, qu'on en parle beaucoup ces temps-ci. Il est parti de la Suède et il y a maintenant une carrière un peu aux États-Unis et basée sur une iconographie très, très virtuelle, très, très Internet. Bref, des choses qu'on aime pas mal. Alors, en espérant que vous allez toujours bien, midi 42, on va y aller pour un petit segment parce que j'ai mal calculé mon temps puis les pubs vont arriver bientôt. Alors, on va parler, en fait, de Assassin's Creed, hein, ce jeu vidéo qui a été parti, on va dire, par Ubisoft. Même moi, j'ai quand même mon mot à dire que Jade Raymond, hein, l'ancienne directrice, une ancienne directrice, je ne connais pas son titre, mais bref, qui était à Ubisoft à l'époque, une Montréalaise. Bref, j'ai l'impression que ce jeu-là, il y a beaucoup de Québec dans Assassin's Creed, là, on le voit, beaucoup de Montréal, beaucoup du studio d'Ubisoft Montréal, et ensuite, les autres épisodes, il y en a beaucoup qui se sont situés, dont en fait l'histoire principale du jeu dans l'univers réel et non dans l'univers de l'Astergo, je pense que ça s'appelle, se déroule dans une ville qui ressemble un peu à Montréal. Bref, alors, il y a du Québec dans ce jeu, on est bien fiers. Et eh bien, on a appris hier que Assassin's Creed sera adapté pour être diffusé en plusieurs séries télé. Alors, c'est Netflix qui a annoncé ça avec Ubisoft. Les deux entreprises en ont fait l'annonce par communiqué en précisant que la première série en développement sera une adaptation spectaculaire en prise de vue réelle qui bousculera les genres. Alors, j'ai bien hâte de voir ça, des choses qui bousculera le genre. Nous sommes heureux de... en fait, c'est Netflix qui dit qu'ils sont heureux de s'associer à Ubisoft et de transposer à l'écran les intrigues complexes et riches dont Assassin's Creed s'est fait la spécialité. Depuis 2007, hein, que ce soit à travers l'Égypte, la Grèce antique ou la Révolution française, la série revendique plus de 150 millions de jeux vendus. Elle mise aussi sur un design poussé, proche de la réalité, impliquant d'importantes recherches de la part de spécialistes de l'histoire. Ça aussi paraîtrait, il y a beaucoup de départements d'histoire dans les universités au Québec qui travaillent beaucoup sur ces jeux-là. Alors, la saga est adaptée en plusieurs façons. Elle est adaptée en BD ainsi qu'en cinéma en 2016. Qui a pas vraiment bien fonctionné. Bref, près d'une dizaine de jeux et séries tirées d'Assassin's Creed sont prévus dans les prochaines années, parmi lesquelles, en fait, il va aussi avoir d'autres séries, en fait, tirées d'Amazon, d'Ubisoft. Alors, il semblerait qu'il va y avoir une série sur les lapins crétins qu'on a vu avec Rayman et une série sur Just Dance. Ça va être un peu bizarre de faire une série de jeux vidéo sur un jeu de danse, mais bref. Alors, on en parlera, c'est sûr, quand que ça va sortir. Et de notre côté, ben, on va aller immédiatement en petite publicité. Et oui, de retour à devant vos écrans, même les directeurs généraux se trompent parfois dans leurs boutons sur la console. Alors, en espérant que vous allez toujours bien, il est présentement midi 46, ce dernier segment de l'émission. C'est cette autre nouvelle qui est sortie lundi. Alors, c'est terminé l'époque où ce que on jouait sur Facebook à des petits jeux comme Farmville ou tout autre petit jeu que je salue ma mère, en fait, actuellement, qui joue quand même beaucoup, pour passer le temps entre deux brassées de laveuse. Facebook veut maintenant faire compétition à Stadia de Google et aux autres services de jeux à la demande. Alors, Facebook, lundi, a annoncé que plusieurs jeux vidéo gratuits seront disponibles seront désormais accessibles à distance et sans le moindre téléchargement depuis sa plateforme, emboîtant ainsi le pas à d'autres piliers américains du numérique. On peut penser à Google ou bien Amazon, mais contrairement à eux, le géant des réseaux sociaux ne lance pas un service à part entière comme Google Stadia, mais offre à ses utilisateurs la possibilité d'accéder à certains titres grâce au cloud. depuis leur application mobile Facebook ou leur navigateur Internet. 5 titres sont disponibles au lancement en version bêta de Facebook Gaming aux États-Unis. Un jeu de course, le Asphalt 9 Legends. Un jeu de golf, le PGA Tour Golf Shootout. Un jeu de rôle, Mobile Legends Adventure. Et deux jeux de cartes, le solitaire Archer Tales et WWE Supercard. Ces jeux sont gratuits, mais contiennent des options d'achat intégrées à l'application ainsi que des publicités. Ils sont accessibles sur Internet sur les appareils équipés de systèmes d'exploitation mobile Android de Google, mais pour le moment ils ne sont pas disponibles sur iOS. Résumé, c'est des gros jeux de cellulaire. Je comprends même pas pourquoi on appelle ça du gaming là, pour de vrai, mais ça c'est personnellement, mais c'est des gros jeux de téléphone cellulaire. Asphalt là, c'est une série de jeux là, qui joue depuis le premier iPod Touch. Et en plus que ces jeux-là, il y a des microtransactions, ça réfute plus encore que au final Facebook, la seule affaire qu'ils veulent, c'est sûrement aller chercher le même port de marché que iOS vont aller chercher, ce qui veut dire qu'ils vont se prendre une cote sur les microtransactions. Fait que c'est un peu bizarre là qu'on annonce ça comme étant une nouvelle plateforme de gaming quand finalement, c'est le même type de jeu un peu bizarre et très simpliste qui avait avait déjà sur Facebook, quand je parlais de Farmville par exemple, ou tous ces autres jeux où est-ce que tu dois attendre une soirée pour avant que ta ferme soit construite pour avoir des points ou que tu peux payer justement pour avoir plus de monnaie. On savait par exemple que des jeux comme Farmville vont bientôt disparaître étant donné que Flash ne sera plus supporté sur les ordinateurs environ, je pense qu'au début de l'année prochaine. Alors c'est pour ça peut-être qu'on veut changer pour aller vers d'autres types de jeux, mais au final, c'est des jeux sur téléphone cellulaire. Si vous prenez les titres des jeux, vous tapez ça sur le iStore ou sur le Android Store, vous allez retrouver les mêmes jeux avec les mêmes microtransactions. Alors au final, vous ne faites que passer par les serveurs, oui, de Facebook. Peut-être ça va aider pour des endroits où ils sont, par exemple, limités dans le type de download ou sur l'Internet qu'ils recueillent, mais c'est des gros jeux cellulaires. Alors, rien à s'exciter ben gros avec ça. On peut penser, par exemple, à Apple aussi, hein, qui a investi beaucoup dans les jeux mobiles à travers sa boutique d'applications. Et comme je le disais, ben, elle perçoit une commission versée par les utilisateurs. On peut dire la même chose, par exemple, pour le Google Play Store. Alors, je pense que, justement, on s'en va vers un monde qui est de plus en plus virtuel pour les jeux vidéo qu'on va accéder. On n'aura plus besoin de cette fameuse console de jeu ou cet ordinateur puissant. On n'aura besoin que d'un terminal, ce qui veut dire une tablette, un téléphone, bref, et une connexion Internet qui a quand même de l'allure. Alors nous, au Québec, on devrait avoir ça aux environs de l'année 2060, une connexion Internet qui a de l'allure. Alors on verra bien comment filent les années, mais moi, je ne crois pas que ce soit le type de jeu qui va fonctionner au Québec, étant donné notre vitesse qui est quand même anémique là, du côté de ces connexions-là, qu'on paye un prix de fou. Mais parce qu'on a un grand territoire, c'est un peu de notre faute. Hein, qui sait, hein, qu'on sait pour ça que l'Internet coûte cher. Sinon, ben, on peut penser aussi à la semaine dernière quand j'ai parlé de Starlink ou il y a deux semaines, bref, le nouveau service d'Elon Musk. J'ai cru voir des prix aux alentours de 99$ par mois. Ça, c'est aux États-Unis. Alors, c'est quand même pas non plus de l'Internet grand public là, qui va être offert à tout le monde et son cousin. Ça va être des choses qu'il faudra faire, qui va être utile, oui, pour les gens, par exemple, qui veulent se pooler ensemble dans un appartement, par exemple, ou dans une maison avec différents logis. Ça pourrait être une bonne idée. Pour une personne normale, 99$ pour de l'Internet, ça devient cher, mais il y a des forfaits, effectivement, qui approchent ce prix-là chez Vidéotron, chez Rogers ou bien chez d'autres entreprises d'Internet. Alors, effectivement, ça pourrait peut-être convaincre certaines personnes. Bref, tout ça pour vous dire, ne vous approchez pas de cette affaire-là là, de Facebook Gaming. Allez chercher les jeux directement sur le téléphone et si vous voulez aller chercher des microtransactions, faites-le au moins directement sur l'application. Comme ça, vous êtes sûr que le développeur va recevoir un petit peu plus d'argent malgré les nombres de centaines de milliers de dollars qu'ils ont à profusion parce que ces jeux-là, ben, ça marche en titi. Alors, c'est déjà la fin, oui, de mon émission pour cette semaine, en espérant que vous avez apprécié tout ce beau contenu que je vous prépare le plus rapidement possible, mais avec autant de passion que d'habitude. On se dit à la semaine prochaine de nos côtés. Et sinon, ben, je vous souhaite de passer une bonne semaine devant vos écrans. Le profitez-en, là, c'est bizarre ces temps-ci, de jouer un bon jeu que vous avez envie, écouter une bonne série, écouter un bon film. Bref, faites de quoi qui vous rend heureux et n'hésitez pas de m'écouter la semaine prochaine, mercredi midi, pour devant vos écrans. Sinon, ben, je suis disponible en balado. Bonne semaine!